RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
L'after, jusqu'à 23h.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, toi.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jean-Christophe Drouet.
Salut à tous, c'est l'After, la seule émission au monde que vous pouvez écouter à la radio sur RMC, la regarder et l'écouter sur BFM Sport, et puis la regarder, l'écouter et cliquer, c'est incroyable, sur notre site rmcsport.fr. L'After de 21h à 23h en juillet, et ce soir pour vous régaler, le monsieur com de l'After, qui a le physique de Marco Pantani, François Marardo. Ah, salut
toi,
François.
Toi, on t'a parlé des dossiers, toi. Mais des vieux dossiers. Ça va, tu vas bien? T'es relax?
Très bien.
Ça va, mais... on t'emmerde pas, Samy Traoré et moi, être dans l'émission, non? Parce qu'au début, c'était oui, bon, alors, on va peut-être s'ennuyer, non? Au mois de juillet, on sait pas quoi faire. Hein? Alors, au mois de juillet. Si t'es célibataire et que t'as rien à faire, écoute l'After.
Voilà. Exactement. Et même si t'es pas célibataire, quitte ta femme et écoute l'After.
Oui, aussi, quitte la.
Voilà. Arrête de partir en vacances. L'After, la priorité, tout le temps.
Exactement.
L'été, évidemment.
La priorité. Et l'After te paye le divorce, monsieur. Oui.
Pas tous. Parce que ça va nous coûter cher. Mais les petits divorces, on est prêts.
Bon, on est content de vous retrouver.
À mettre
même
la
avec
main
toi.
À la patte. Merci, François. On sera ensemble tout l'été. Et vraiment, c'est un honneur. Allez. Le Parisien de l'After, qui a l'hygiène de vie de Marco Pantani. Samy Traoré, salut Samy.
Ça va, je suis encore vivant. Parce que là, je suis encore vivant quand même. Si j'avais son hygiène de vie, je serais plus là.
Mais on peut pas dire ce qu'il nous a dit quand même avant que l'émission commence.
Non, je balance pas.
Non,
on
balance pas les dossiers en tête. Qui va nous, qui sera avec nous et qui. Ça va, on est là. Attends, on va pas te mettre à poil non plus pour faire de l'audience, non?
Mais non, mais je sais, nous sommes le samedi soir. Vous êtes certainement en train de faire un barbecue, peut-être en train de sortir de la piscine. Je vous conseille une seule chose. Sortez tout de suite, mettez la radio. Écoutez ouais. RMC, allumez la télé, mettez BFM Sport et on est là jusqu'à 23h. C'est bien ?
Allez, on est là.
Parfait.
Vous êtes prêts ? Bah oui, j'enchaîne avec le menu.
Si tu es prêt, on est prêt. Nous, on te suit. Hein.
Alors, je suis pas prêt. Bon, on va y aller plutôt à 22h. Mais non, on y va tout de suite. Le sommaire ce soir, dans quelques instants, la vie tranchée de Samy Traoré. N'Golo Kanté doit être la priorité du Paris Saint-Germain. À 22h20, la vie tranchée de François Manardo. Les clubs de Ligue 1 vont devoir être à la hauteur du titre de champion du monde des Bleus. À 22h40, Thierry Henry doit-il se lancer dans le grand bain dès cette saison? West Ham, Aston Villa, pardonnez-moi, le réclame ardemment. À 23h, focus sur le timide mercato lyonnais, vous allez me donner votre avis. Est-ce inquiétant pour vous ou non? À 23h20, toutes les autres rumeurs, informations, transferts de la journée.
À 23h20, on s'est rendu, mon ami.
À 23h20, il n'y a plus personne.
Salut, il va falloir sortir les rangs.
Ne t'inquiète pas, on est là. On va t'accompagner jusqu'au bout.
C'est pas 3h de direct, monsieur, ce soir.
Attendez, qui a
2h?
Qui a mis mes vieilles.
Bravo, et en plus, c'est la faute des autres.
Attendez, qui va sortir les vieilles fiches, là?
Oui. Allez, Cyprien, viens là, tu vas prendre une tannée.
Cyprien Bétou sera fouetté avec du parmesan, comme d'habitude. Mais merci beaucoup, Cyprien.
Hein, et moi, hein.
Donc, les horaires, peu importe, on est là jusqu'à 23h. À 22h40, ça va, 22h40, vous serez encore là, les mecs.
23h20, tu fais ce que tu veux, mais t'es tout seul, hein, mon gars.
22h40, évidemment, le quiz. J'attends la première bonne réponse de Samy Traoré. Ça fait 10 ans qu'il est là, ça risque d'être génial. Génial. Appelez-nous, évidemment, au 3216 pour participer à cette émission, le hashtag RMC Live. Le compte Twitter et le compte Facebook de l'émission. On vous a déjà posé des sondages avec notre community manager Laurent Fala. Allez-y, on en parlera un peu plus tard. Vous voulez voir l'image du jour?
Allez, montre-nous l'image du jour.
Bien, c'est Adrien Rabiot, capitaine, le Paris Saint-Germain qui s'est incliné 3-1 face au Bayern Munich. Thomas Tuchel avait décidé d'aligner un 3-4-2-1 avec beaucoup de jeunes. Buffon, Diarra aussi dans l'équipe. Rabiot donc capitaine, et c'était plutôt bien parti pour les Parisiens avec cette ouverture du score de Timothy Weah, son premier but avec l'équipe première. Mais le Bayern a logiquement renversé la rencontre en seconde période, car il y avait du beau monde dans les rangs bavarois. Robben, Ribéry ou encore Kingsley Coman qui est entré lors de la seconde période. Et puis Thomas Tuchel qui a déclaré que c'était un match assez incroyable de la part de son équipe. Je le disais, beaucoup de jeunes, donc pas forcément un mauvais résultat, quelques réglages évidemment, mais les jeunes en tout cas ont la main mise pour l'instant, car les internationaux ne sont
faute
pas là.
De mondialistes, faute de joueurs, de vacances.
Mais oui, mais ils peuvent montrer des choses.
Oui, ils peuvent montrer des choses. Oui, oui. Évidemment, non, mais tant mieux, montrer des choses pour monter dans l'avion pour la tournée à Singapour là.
Quand tout le monde va rentrer, après ça va être difficile pour eux.
Bien sûr, mais il y en a peut-être un ou deux, ou trois, ces trois-là peuvent sortir du lot. Et ça, c'est plutôt pas mal.
À ma foi, la saison dernière, on a vu,
pas grand monde,
Caligari ou Georgène, même pas. C'est une coucou
qu'on avait déjà vu quand même, qui est pro,
il avait déjà un peu plus trouvé.
Et OEA, on l'a vu vraiment, vraiment sur le tard.
Ouais, et puis en tout cas, Timothy OEA, qui a inscrit, je le disais, son premier but. Ben Arfa, avec le Paris Saint-Germain? Je crois que c'est un peu cuit quand même, hein, depuis le 30 juin.
D'accord.
Non, je crois qu'il est pas trop dans le groupe là, je crois qu'il est plus au Paris Saint-Germain.
Mais il a signé nulle part.
Ah non, il a signé nulle part.
Voilà, ouais.
Il a juste mis un taquet au bleu il y a pas si longtemps en parlant du jeu et tout ça.
Ouais,
mais
bon, il a signé dans aucun autre club. Il a mis un taquet et s'est repris un peu dans la gueule, mais
je vois de quoi tu veux parler. L'OM qui a fait match nul, le match s'est terminé il y a quelques instants face à Villarreal. Côté Villarreal, but de l'ancien danger Karl Toko Ekambi, égalisation à la 63e minute de Valère Germain. Voilà, et puis d'autres résultats dans ces matchs amicaux à vous donner avant la vie tranchée de Samy Traoré. L'AS Monaco qui a concédé une deuxième défaite de rang en match amical. Les joueurs de la Principauté qui se sont inclinés face au club allemand de Paderborn. 3-2 avec un doublé tout de même de Sofiane Diop, 18 ans, l'une des recrues de l'AS Monaco. 2 buts pour lui, et puis il y a quelques jours de son premier match en tour préliminaire de la Ligue Europa, Bordeaux a été accroché par l'Union Berlin 1-0. Rennes a été battu par Anderlecht 3-2 et Nice-Charleroi 2-0. C'est complet, quelque chose à rajouter?
Non, c'est voilà les matchs.
Les matchs amicaux comme ça,
des matchs amicaux du mois de juillet.
Tout le monde il rencontre des équipes en plus qui ne sont pas à la même période de préparation, donc forcément il y a des décalages. Après c'est plus du travail.
Et puis on parlait pour les grosses équipes, le retour des internationaux. Bref, on peut pas trop tirer d'enseignement. Même si pour Bordeaux, c'est important parce qu'il y a déjà un premier match.
Oui, parce qu'il y a le match Europa League contre les Lettons qui arrive rapidement. Donc c'est histoire de pas se prendre les pieds dans le tapis, de voir au niveau de la préparation physique où ils en sont. Juste une petite chose, évidemment, Atem Ben Arfa ne fait plus partie du Paris Saint-Germain. Je veux juste savoir dans quelle nature il était perdu.
Ah oui,
on avait des news.
Oui, bah écoute, je l'ai pas eu au téléphone. D'ailleurs, j'ai pas son numéro. C'est peut-être pour ça. Enfin, on sait pas, mais on l'embrasse très fort évidemment. Atem Ben Arfa, comment?
Peut-être qu'il a le tien.
Je pense qu'il est content d'avoir le mien. Je pense qu'il se dit, attends, tu sais qui j'ai le numéro.
C'est intéressant qu'il nous donne des nouvelles un petit peu sur ce qu'il compte faire, où il veut rebondir. Il devrait y avoir quand même quelques clubs intéressés.
Tu veux qu'on lance un message? Tu le connais, toi, tu dois avoir le numéro.
Je l'ai un peu vu en équipe de France, mais c'était il y a longtemps. Tiens, d'ailleurs, ATM, équipe de France, ça commence à dater.
Oui, c'est vrai. Mais t'as pas son numéro, là?
Non, moi, je ne l'ai pas.
Tu l'as son numéro?
Non, dans la rédac, qu'on doit... Non, mais si il peut nous donner des news un petit peu, parce que j'ai vu qu'il avait fait une rubrique cet été dans un quotidien français, il me semble, Le Monde, peut-être, même, ou France Foot, je sais plus
c'est
très
France
bien.
Foot, France Foot, ouais.
Bah, qui donne des nouvelles sur où est-ce qu'il a envie d'atterrir.
Bah écoute,
qu'est-ce qu'il compte faire?
Le message est lancé.
Il a un peu de talent et il a plus travaillé.
Tu sais quoi,
un peu quand même.
À 22h, on va parler du.
Il a beaucoup de talent.
À 22h, on parlera du mercato lyonnais. Pourquoi est-il aussi timide? Pourquoi est-il aussi méchant? On en parlera à partir de 22h. Et justement, Atem Ben Arfa à Lyon, c'est un serpent de mer. En tout cas, on sait que Jean-Michel Aulas avait envie de le faire revenir. Appelez-nous, supporters lyonnais, au 32-16. Tout de suite, on va débuter avec la vie tranchée de Samy Traoré.
Ça a surpris Samy quand j'ai appris que Umtiti c'était le beau gosse son nom.
Pourquoi ça t'a surpris Samy?
Parce qu'il se fout de lui.
Non, tu penses pas?
Ah, mais j'en sais rien.
Bah pourquoi alors?
Et voilà pourquoi Samy Traoré pense que voilà, on se moque un petit peu de Samuel Umtiti en équipe de France. Tu voulais nous parler d'un autre joueur de cette équipe de France, N'Golo Kanté, pour toi, eh bien, il doit être la priorité du PSG pour ce mercato.
Oui, parce que premièrement, ils ont perdu l'une des... Allez, moi pour moi, il faisait partie des 5 meilleurs milieux de terrain de ces 5 dernières années, Thiago Motta. Ils ont perdu ce joueur qui était essentiel dans le rouage de ce milieu, de cette transition défense-milieu-attaque. Maintenant, il va falloir compenser. J'ai vu un peu le match cet après-midi. C'est vrai qu'au milieu, c'est désert complet. C'est désert complet, il y a
du Paris Saint-Germain
au milieu.
Oui, mais là il y avait Lassana Diarra, il y avait Adrien Rabiot, il y aura Giovanni Lo Celso qui va revenir.
Giovanni Lo Celso, Draxler, c'est des joueurs à vocation milieu offensif. C'est des joueurs qui ne sont pas.
Tu peux le qualifier du 8 peut-être, Lo Celso.
8, ouais, mais c'est pas le 6.
Ouais.
Si le coach décide de jouer comme il a joué avec 3 derrière, 5 au milieu et 3 devant. s'il décide de mettre une sentinelle, Lo Celso, je vois pas Lo Celso faire ce travail de sentinelle. Rabiot, on sait plus ou moins que...
Il veut pas le faire.
Il veut pas le faire.
Ouais, mais N'Golo Kanté, on l'a bien vu en équipe de France que c'est pas son poste privilégié. Et je suis pas sûr quand on voit les compositions de l'Allemand Thomas Tuchel qu'il a envie de jouer avec une sentinelle. Il a envie de jouer avec 2-6.
Même qu'il joue avec une sentinelle. De toute façon, il a les capacités pour jouer sentinelle. Et c'est l'un des meilleurs, moi je pense. Et en jouant à deux milieux de terrain, il a cette capacité aussi à pouvoir se projeter un peu plus vers l'avant. Mais il est toujours, quand même, il a toujours cet aspect défensif. Il va consolider le milieu de terrain, il va amener une concurrence. Je pense que le Paris Saint-Germain, en essayant de ramener N'Golo Kanté, déjà premièrement ramène un champion du monde en France, ce qui est bien.
Bien sûr.
Ce qui est bien. Au niveau des supporters, je pense que tout le monde et tout le Parc des Princes sera heureux de voir N'Golo Kanté fouler le Parc des Princes.
Justement, appelez-nous un supporter parisien au 32-16.
Je pense, et je suis même certain même. Et par sa discipline, il va amener une stabilité, je pense, qui va être fondamentale pour le Paris Saint-Germain. Après, de toute façon, quoi qu'il en soit, il va falloir qu'il ramène un milieu de terrain, voire deux milieux de terrain. C'est sûr et certain. Donc, à choisir. Vaut mieux qu'ils essayent de se mettre en danger au niveau du fair play financier, juste au niveau de la limite, s'il faut. Mais qu'ils ramènent ce patron. Moi, je pense qu'il faut ramener ce patron.
Alors, à chaque fois que l'on parle d'N'Golo Kanté, il y a toujours un doute sur son envie de venir et de revenir en France et au Paris Saint-Germain. Peut-être avez-vous des informations là-dessus. Nous avons posté un sondage sur notre compte Twitter. N'Golo Kanté doit-il être le dossier prioritaire du Paris Saint-Germain? Près de 6000 votants. Et pour l'instant, c'est oui à 75%. Donc, peut-être que tous les supporters parisiens ont voté. Appelez-nous. On va vous prendre dans quelques instants. François, quel est ton avis?
Ben, c'est dans cette intersaison du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain, c'est quand même la zone où il faut le plus travailler au niveau du staff pour le recrutement parisien et le travail d'Antero Henrique. Il y a la situation, tu l'as dit, Samy, de Thiago Motta, ça c'est réglé. Il y a la situation d'Adrien Rabiot, qui va être une situation, je pense, pour le joueur, encore plus que pour son club, mais pour le joueur, compliqué par rapport à ce qui s'est produit dans son choix de ne pas faire partie des réservistes. Ça va être quelque chose, je l'espère pas pour lui, mais je pense que ça risque d'être comme ça, complexe pour Adrien Rabiot. Peut-être pas au Parc des Princes, on en parlait un peu avec Samy, mais en tout cas sur les 19 autres stades de L1, et encore 18, je mets Marseille à part, ça risque d'être très très chaud. Dans les deux sens du terme. Si Adrien Rabiot se prend l'envie ou est convaincu que ça va être très délicat de jouer pour lui en France, moi je l'ai connu dans un autre cas de figure avec les Français qui avaient été en Afrique du Sud, à Naïsna,
ouais.
Et qui, je peux te le dire, avaient une frousse légitime, et en tout cas pas possible, de revenir jouer dans le championnat de France, et qui me disaient déjà, tu vas voir, pour nous, ça va être un régime terrible, par rapport à nos coéquipiers de l'équipe de France qui jouent à l'étranger et qui étaient embarqués dans cette merde en Afrique du Sud.
Au final, Rabiot, ça s'est pas si mal passé que ça.
Ça a été difficile, ça a été difficile. Pas si mal que ça parce qu'il y avait un côté collectif dans cette...
Pas trop individuel, hormis quelques cas, mais...
Dans ce drame. Mais Rabiot, lui, c'est individuel.
Oui, mais donc, c'est quand même largement moins fort que ce qui s'est passé à Naïsna.
Non, mais
par rapport à
le public dans un stade,
mais ça dépend. Mais ça reste quand même un refus.
Très 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 cruel avec un joueur, d'autant qu'on est champion du monde. Donc, Motta c'est fait. Si Rabiot se barre, tu vas avoir Lo Celso, oui, en 8. Il te faut.
Verratti qui est toujours là.
Pardon.
Il y a toujours le petit Verratti qui est toujours là.
Il y a Verratti. Il te faut recruter, c'est sûr, un joueur.
Il y a la Sanavera.
Il y a la question. Alors il y a l'As, mais alors l'As, il a joué en défense centrale à 3. Gros point d'interrogation.
Pour dépanner.
Pour dépanner, j'espère pour dépanner, parce que c'est vraiment pas son poste de prédilection.
Non, c'est pour dépanner.
Mais il te faut un milieu défensif. Il te faut un 6. Alors N'Golo Kanté, dans la mesure où le fair play financier te permet de faire l'opération. Mais qu'il fonce dessus, mais qu'ils y aillent, et puis qu'ils lui déroulent le tapis rouge.
Je les accompagne, moi, même s'ils veulent. Faut le convaincre. J'ai rien à voir avec eux, mais je les accompagne tellement.
T'as pas le numéro de Ben Arfa, mais t'as le numéro de Kanté, ou pas?
Non, mais c'est le truc. C'est monstrueux.
Aujourd'hui, alors, tu parlais de la transition, oui, défense-attaque, mais il y a aussi une capacité à gratter les ballons, et surtout, c'est un des meilleurs, je sais pas si le terme dans le football est un petit peu un néologisme, mais c'est un intercepteur. Là où Motta pouvait faire des fautes et pouvait un peu casser le jeu adverse, lui il est encore plus, il est propre.
Ouais, il est propre.
Il tacle rarement, il est rarement averti.
Ouais, il a
une qualité d'interception et de lecture du jeu.
De lecture du jeu, phénoménal.
Il a un temps d'avance. Donc,
Écoute, tu sais quoi? Et le tapis rouge, le nœud qui va avec, voilà.
En plus, je crois qu'il aime bien ça.
Faut tout faire.
Il fait des arrivées en grande pompe et tout ça. Je pense qu'il est à l'aise.
Je sais pas si ça correspond au personnage. Non, mais voilà. Oui, c'est un dossier sur lequel Paris Saint-Germain doit.
En plus,
il pourra
manger du mafé à Paris. À Chelsea, là-bas, à Londres, là-bas, je sais pas si elle le mafé lui aussi.
Ça peut être un point. Je sais pas si c'est le point.
À Paris, tu retrouves dans le dixième du côté château d'eau. Il y a de quoi faire.
Salah nous appelle au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir Salah.
Bonsoir les gars. Bonsoir.
Salut Salah.
Bonsoir.
Salut les gars.
Alors est-ce que tu es d'accord avec Samy Traoré et aussi avec François, mais c'était l'avis de Samy sur le fait que le Paris Saint-Germain doit lui dérouler le tapis rouge. Ça c'était l'argumentaire de François, mais en tout cas ça doit être le dossier prioritaire. Ça c'était l'argumentaire de Samy.
À prendre N'Golo Kanté, qui dirait non en Europe. Je pense que tout le monde le veut, et je pense que pour Paris ce serait un bon joueur, parce que c'est vraiment un gars qui met les bouchées doubles, qui est un super joueur, mais dérouler le tapis rouge, c'est-à-dire l'acheter à un prix exorbitant, non.
Là, non, il y a les limites du fair play, hein, ça là. Il y a la limite du fair play.
C'est exactement ça.
C'est quoi pour toi un prix exorbitant?
Au-delà de 80, négatif. Au-delà de 80, franchement, ça va faire trop.
Je te posais juste la question. Non, pour moi, 80, je suis d'accord avec toi. 80, c'est parfait pour un milieu défensif. Champion du monde, c'est parfait.
Ouais, mais ce serait maxi, parce que. Mais c'est le joueur qui serait parfait pour jouer en sentinelle. On sait qu'il est un peu dans la lignée de Matuidi, surtout que maintenant on l'a plus. C'est quelqu'un vraiment qui ratisse, qui est jamais fatigué, qui est toujours là. Mais l'acheter à, comme j'ai dit, à un prix exorbitant, non, il faut, et si on
non
peut pas l'avoir,
non, dire, mais de toute façon, tu pourras pas. Non, mais comme t'as dit tout à l'heure, 80, c'était parfait.
Ouais, mais justement, mais si on peut pas l'avoir, c'est pas un drame. Je veux dire, il y a d'autres très bons joueurs.
Comme qui?
Moins chers. Et
comme qui?
Qui sont capables de.
Comme qui?
Je sais pas, il y en a d'autres.
Comme qui, justement? Il n'y en a pas des masses.
Je sais qu'il y en avait un en Allemagne que Tuchel voulait ramener de Dortmund, il me semble.
C'est pas Guerrero qui voulait amener?
Non, Guerrero, c'est un arrière.
Un milieu de terrain, il voulait amener avec lui.
Il y avait un milieu de terrain
intéressant qui voulait amener de Dortmund. Ça peut être une bonne pioche.
Non, aussi. Mais c'est un jeune aussi, un pari sur l'avenir peut-être aussi, non?
Mais pourquoi pas? Ça fait combien de temps qu'il a explosé? Ça fait pas non plus.
Je confirmais juste ce que tu disais, c'est tout.
Non, mais t'as raison, Samy. Non, ce que je dis, c'est il faut que Paris aussi ils achètent intelligemment. Il y a des bons joueurs, je suis sûr, et c'est là où il faut que la au mercato, que les recruteurs regardent un petit peu ce qui peut être la bonne pioche.
Mais je pense que
c'est nickel.
Mais je pense que N'Golo Kanté quand même, c'est vraiment la pioche idéale. Il a été élu meilleur joueur du championnat anglais.
Je suis d'accord.
Il est champion du monde. Ça reste quand même costaud.
Ce que je veux dire, c'est que je veux pas Paris achète un joueur en.
Tu veux pas que Paris se dépouille, quoi. Tu veux pas que Paris se mette encore en difficulté par rapport au fair play.
Ce serait bien que Paris aussi arrive à trouver un joueur, un bon joueur. Et qu'ils en fassent un taulier, et que là, on se dit, Paris, ils ont détecté un très bon, comme on l'avait fait avec Verratti. Il faudrait un truc comme ça, mais, Kanté, il a explosé, après Leicester, il est parti à Chelsea.
L'idée est bonne.
Comme l'a dit François, il y a Rabiot. Quand on a un joueur comme ça, et qui était à la base sentinelle, et qui est monsieur ne peut plus, qu'il a envie de jouer maintenant sur le côté, et que du coup, maintenant, c'est un casse-tête, on a été obligé de mettre Lo Celso. Là aussi, il y a des questions à se poser. Je veux dire, si Tuchel aussi, il arrive à lui dire, écoute, non, des sentinelles, c'est ça ou rien. S'il n'est pas content, il peut partir au Barça comme la presse arrête pas d'en parler, il pourrait y aller.
En tout cas, vous parlez de Rabiot, et c'est vrai que ça peut être plus ou moins lié au dossier Kanté. Mais Adrien Rabiot, c'est quand même un geste fort de le mettre capitaine de cette équipe aujourd'hui. Il a joué
fort
en tant que sentinelle face au Bayern Munich.
Après, je pense que c'est plus ancien quand même.
C'est un geste fort.
Non, mais Buffon, il vient d'arriver. Tu peux pas lui donner quand même le brassard. Il y a quand même le petit Rabiot qui est là, qui était formé
par Saint-Germain.
Si t'as
pas besoin du joueur, t'es pas obligé de lui montrer ça.
Il y a une chose. Tu lui mets le brassard. Moi, je trouve que c'est normal de lui donner le brassard.
Non, effectivement.
Maintenant, il fait partie des joueurs installés dans ce club. Comme je l'ai un peu dit tout à l'heure.
Le tapis rouge, il est pour lui, du coup, là.
C'est pas un problème pour le PSG, c'est un problème pour le joueur, sa situation. Il s'est mis dans une situation compliquée. Le titre de champion du monde, là. encore plus compliqué. Il suffit de voir quand même, c'est très très frais, d'accord les amis, mais on est là, on est parti sur une vague d'euphorie dont ce mec s'est complètement mis à l'écart alors qu'il est international. C'est pas pour le PSG. Que le PSG lui donne le brassard, ok, il n'y a absolument rien d'anormal. Mais c'est lui, c'est dans le premier mois de championnat, où on va être encore en plein mercato, ça se termine le 31 août, c'est voir comment est-ce qu'il va endurer, comment il va accepter, parce que je pense que ça va être difficile pour lui, peut-être au Parc des Princes, mais certainement dans les autres stades de Ligue 1.
Bon, revenons sur N'Golo Kanté. Salah, tu voulais rajouter quelque chose ou pas?
Non, je veux dire, voilà, je vous le dis, si on peut avoir N'Golo Kanté, c'est bonne pioche, mais pas n'importe quel prix.
Et okay, d'accord avec toi.
Mais juste une petite chose, les gars, une dédicace à mon pote Karim qui vous écoute tout le temps et qui vous kiffe.
Salut Karim,
tu l'embrasses, que tu viens nous écouter. Et merci beaucoup, Salah, d'avoir composé le 32-16. À bientôt. Ciao, dans l'after, on parlait de prix de gros sous. Sachez 80. Qu'il avait été acheté à Leicester par Chelsea pour 35 millions d'euros. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec son éclosion, il vaut beaucoup plus.
Je me demande si c'est pas plus que 80.
Mais on parle d'un prix autour de 100 millions d'euros. En tout cas, la valeur marchande d'un N'Golo Kanté est autour de 100 millions d'euros.
Ils peuvent pas se le permettre, pareil. Il y a quand même un latéral gauche aussi. Je parlais du milieu, mais il y a un latéral gauche à recruter.
Après, 100 millions sur un défensif, c'est beaucoup quand même.
Mais c'est un milieu de terrain, champion du monde.
Il y a la valeur marchande qu'il a prise. Mais à côté de ça, dans le registre, ça reste quand même beaucoup.
Mais en même temps, Samy, on est dans une période maintenant et ça va pas s'arrêter, une espèce d'inflation des prix sur les footballeurs.
Moi, je trouve que vous parlez beaucoup d'argent. Quoi. Ça me gêne beaucoup.
Ah ben tiens, tu te dis qu'on est dans une période de mercato et ça fait un peu partie du business.
Ah oui. Ça me gêne plus du tout. Alors.
Monsieur Drouet,
D'ailleurs, Guillaume nous appelle, supporter du Paris Saint-Germain au 32-16. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous.
Salut Guillaume.
Bonsoir.
Toi aussi, tu veux parler d'argent?
Oui, parce que pour moi, on sait tous que de toute façon, le frein principal à l'avenue de Kanté, c'est le fair play financier, parce que déjà l'UEFA nous a encore dans le viseur parce que l'enquête a été réouverte par je ne sais quel truchement, et il y a aussi le fait qu'à la fin de l'année, on va devoir absorber maintenant les transferts de Neymar et d'Mbappé, et qu'il y a quand même un certain petit paquet d'oseille, entre guillemets, à trouver. Et comme le supporter précédent l'a dit, je veux dire, à un moment, faut pas, entre guillemets, se dépouiller pour Kanté, même si tout le monde est d'accord sur le fait qu'il ferait beaucoup de bien au PSG, mais comme on sait que Tourelle veut passer à une défense à 3, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un vrai 6 à recruter? Et comme l'a dit le supporter précédent, il y a aussi le fait qu'il y a un joueur dont on ne parle pas, mais qui a une clause libératoire aux alentours de 30 ou 40 millions, c'est Nzonzi. Et qui ferait tout. Je ne dis pas que ce n'est pas le même joueur que Kanté, ça on est d'accord, mais qui au niveau défensif. Et ce serait parfait.
Bah attends, tu sais quoi Guillaume, on a Nzonzi en plateau avec nous dans l'after, on va lui poser la question. Nzonzi.
Non, je pense pas que je viendrai pour les Saint-Germain.
C'est incroyable, t'as la même tête. Hein. Je sais que vous nous écoutez principalement, mais pouvez-vous nous regarder sur BFM Sport? C'est la même tête que Nzonzi.
Non, t'es merci. Pas idiot. Non, merci. J'ai suivi Séville de pendant 2 ans et demi.
Yeah, on est lancé.
Ok, la taille, je veux bien, mais non. Mais je l'ai aimé l'un avec à côté de l'autre.
Les deux avec un grand
nez,
hein. C'est ça?
Il y a forcément des synergies.
Il peut y avoir de loin. Toute ressemblance.
De loin, sur le terrain, tu peux confondre.
Bah ouais, même passement de jambes.
T'as un peu plus de ballon.
Ah non, ça va pas, non, arrêtez.
J'ai quelque chose à vous lire parce que Thomas Tuchel était évidemment en conférence de presse après la défaite 3-1 face au Bayern Munich. Est-ce que je veux garder Rabiot? Bien sûr, a déclaré l'entraîneur allemand. Vous pouvez voir le potentiel que ce garçon a et il n'a même pas encore atteint ses limites. Son avenir est entre ses mains, car vous le savez, il a encore un an de contrat. Je reprends la discussion. Et la décision lui appartient. Il doit décider s'il veut s'engager avec nous et avec notre manière de fonctionner.
Très bien. Tant mieux d'ailleurs.
C'est... Il veut le garder, hein, Thomas Tuchel.
Mais la volonté du PSG, elle n'est pas de le qu'il parte. Après, il y a une situation qui est particulière. Deschamps, il a été sollicité, il en a reparlé aujourd'hui encore. C'est un garçon, je pense, qui va être confronté à une hostilité en France qui peut, quand t'es voilà, t'as un joueur de foot, ta sensibilité, ça peut aussi le toucher. Et arriver peut-être août, ce sera peut-être digéré, il dira oui, peut-être qu'il fera son mea culpa aussi, c'est peut-être une bonne idée d'ailleurs qu'on peut lui souffler. Mais si ça ne se passe pas et que c'est très compliqué pour lui et que le ballon lui brûle les pieds, il peut dire moi c'est intenable, c'est insupportable, j'ai une offre à l'étranger, et ben je la prends.
Pour N'Golo Kanté, Guillaume nous disait qu'il y avait des pistes moins chères, il parlait notamment de Steven Nzonzi. Est-ce que pour le Paris Saint-Germain, vous avez la sensation qu'il faut quelqu'un qui fasse passer un palier au PSG? Steven Nzonzi, très bon joueur.
À quel niveau? Dans le vestiaire, dans le...
Non, plutôt en Ligue des Champions, sur le terrain. On n'a pas la sensation.
Dans le vestiaire, il y a Buffon qui vient d'arriver déjà.
Ouais, donc on va voir.
Forcément.
Il vient d'arriver, mais bon, il y a la langue, il y a les clans avant lui, c'est pas Léon le nettoyeur.
Mais même je sais pas.
Oui, je suis d'accord, sur le charisme, l'expérience, d'accord, Samy, mais... Buffon, je pense qu'il avait quelques relais aussi dans le vestiaire turinois. Mais... Il y avait les Chiellini, il y avait...
En gros, est-ce qu'il faut prendre un cadre maintenant? Mais un cadre maintenant,
N'Golo Kanté.
Ouais, bah voilà.
C'est le cadre.
Non, mais Guillaume nous parlait de Steven Nzonzi. Voilà, c'est un très bon joueur.
Aujourd'hui,
c'est pas un cadre.
Je suis désolé, c'est un cran en dessous, quand même.
Si tu demandes à Séville s'ils ont le choix entre garder Nzonzi et prendre Kanté, je pense qu'il...
Le choix est vite fait, à mon avis.
Ouais. Prends Kanté, hein.
Bon, vous êtes plutôt d'accord sur ce débat, donc on va passer dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Encore une citation de Thomas Tuchel après la défaite 3-1 du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, aujourd'hui en amical. Il nous parle du côté droit. Vous le savez, Dani Alves est blessé. Thomas Meunier va revenir après ce mondial. Il a été excellent avec la Belgique durant la Coupe du Monde, ce qui est à la fois bon et mauvais pour nous. Il reprendra le 6 août, donc on ne peut pas placer tout ce poids sur ses épaules. Nous devons trouver une solution à ce poste. Comment vous l'interprétez? Le Paris Saint-Germain va acheter quelqu'un à droite?
À droite, plutôt...
Mais pour acheter quelqu'un à droite, il y a
Il y a Daniel Alves qui reviendra, mais pas tout de suite.
Mais il est blessé combien de temps encore?
Je crois qu'il revient en fin d'année, donc en octobre-novembre.
Non, je pense que c'est quelqu'un à gauche, quoi. D'abord, il faut...
Déjà, il faut un concurrent direct à Kurzawa, déjà, premièrement.
Ouais, soit
une blessure, de toute façon. Il faut pallier la blessure de Kurzawa s'il il a déjà à ce qu'il se blesse. Il n'y a pas de latéral gauche. Et après, à droite, eh ben, je pense que en réserve ou chez les jeunes, il n'y a pas un petit jeune surdoué.
Non, mais il y a des achats à faire, d'accord. Mais,
c'est pas la priorité.
Je pense que c'est peut-être un peu plus du côté gauche. qu'il faut s'équiper, mais de toute façon il faut, alors il y avait la situation avec Thomas Meunier et Dani Alves, mais au niveau des latéraux pour la Ligue des Champions, parce que ça reste quand même, voilà, on le sait, on va le répéter chaque saison, c'est l'objectif. Si on me parle de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, de championnat de Ligue 1,
ça reste un objectif, mais pas prioritaire.
Berchiche, tu le gardais, hein, ils ont vendu Berchiche pour se mettre un peu plus dans les clous au niveau du fair play financier. Maintenant il te faut des latéraux, là pour le coup, qui soient aussi des cadors, qui te permettent
de franchir un palier.
Mais franchir un palier, mais même la phase de poule aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on ne peut pas concevoir qu'il soit éliminé en phase de poule et reversé même en Europa League, encore moins finir quatrième. Mais le money time, c'est février, mars, c'est à partir de là que ça commence. Et là, tu dois avoir des joueurs sur lesquels, dans la valeur, tu vas un peu l'avoir sur la phase de poule, mais Dani Alves, il est très bon en phase de poule. En revanche, il est en phase de poule.
Non, t'avais un vrai
chat dans la gorge, d'accord. Ouais. Mais Dani Alves, il est bon en phase de poule. Après, en revanche, quand c'est monté d'un cran face au Real, c'est là que il a accusé son âge. Donc, il y a une forme d'incertitude aussi entre savoir, tu prends des cadors sur les latéraux, parce que Dani Alves est blessé, parce que Kurzawa, bon, il est quand même le cul entre deux chaises. Et tu vas pas, avant, je pense, début 2019, savoir si vraiment, vraiment, t'as des gars extrêmement costaud.
Bon, bah en tout cas, le mercato du Paris Saint-Germain va nous tenir en haleine, parce qu'il y a beaucoup de pistes, et Thomas Tuchel l'a redit aujourd'hui en conférence de presse. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour l'avis tranché de François Manardo. Les clubs de Ligue 1, justement, ça rejoint un peu le Paris Saint-Germain, vont devoir partir aussi à la conquête de l'Europe, comme l'équipe de France est partie à la conquête du monde.
Exactement.
À tout de suite sur RMC, je l'ai bien dit?
Ouais.
Ouais.
C'était bien, là.
Ouais.
Tu t'es dépassé.
Facile.
Dépassé.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
21h31, vous écoutez l'Afterfoot, peut-être que vous nous regardez aussi sur BFM Sport, toujours avec Samy Traoré, toujours avec François Manardeau, nous sommes ensemble jusqu'à 23h, et évidemment le Mercato au cœur de l'actualité, même si dans quelques instants il y aura l'avis tranché de François, qui ne concerne pas le Mercato, mais sachez qu'on en reparle dès 21h40 avec Thierry Henry, qui pourrait se lancer dans le grand bain, on vous donne toutes les informations dans quelques instants, et puis à partir de Lyon à Millionnet, appelez-nous au 3216. Nous parlerons du mercato de votre club. Pour l'instant, timide, est-ce inquiétant? Oui ou non? Venez partager votre avis. Tout de suite, l'avis tranché de François Manardeau.
Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été
vous m'avez plus la circoncis,
plus clair, bref.
C'est quand même le seul moment de ma vie où je repasse la circoncision à chaque fois que j'ai un avis tranché. Hein.
Oui, tu veux.
Non, on va peut-être changer quelques parce que moi ça va de ce côté-là, Monsieur Bétou. Donc si vous avez un autre jingle, je vais essayer de dire une connerie. Enfin,
tu veux qu'on refouette Cyprien Bétou avec du parmesan, notre producteur?
Bah, fouettez-le avec ce que vous voulez. Hein.
D'accord.
Il n'aura pas fromage, que vous voulez.
Bon, alors mon avis tranché. Bon, et mine de rien. Et puis je vais faire trancher très fin. C'est l'été, c'est le mercato, donc on va pas trop phosphorer.
Non, vas-y, simplement. T'as 2 heures et 2 copines.
Simplement. Alors, l'équipe de France est championne du monde et moi ça m'amène toujours à dresser ce constat au niveau de le foot français à l'international. La sélection nationale, elle a disputé dans son histoire 8 finales, elle en a gagné 6. Alors pourquoi je dis 8? Parce que j'inclus évidemment les 2 coupes des confédérations qu'on a gagnées. Donc on a ces 8 finales-là, 6 finales, donc c'est un très 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 bon ratio. On a aussi une particularité, mais déjà arrivé de le dire dans cette émission, c'est que de toutes les nations au monde qui ont à la fois un palmarès en club, à l'international, nous avons 2 coupes d'Europe, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, et qui ont un palmarès en sélection nationale, on est la seule nation qui a plus de trophées avec sa sélection A qu'elle n'en a avec ses clubs. Alors que c'est tout simple, hein, un enfant de 5 ans, il pourrait arriver à la même conclusion, tu as beaucoup plus de possibilités de gagner des trophées internationaux en club chaque saison. Alors
ça dépend des enfants sur le calcul. Hein.
Tu n'as, bon les miens ça devrait passer, tu n'as, je vous embrasse mes chéris, et tu n'as qu'une possibilité pour une sélection tous les 2 ans. Donc, le taux de réussite, j'avais fait cet avis-là il y a 2 ans, je crois, le taux de réussite...
Attends, t'es en train de nous reciter
non,
tes avis,
non.
C'est ce que tu
attends,
dis.
Le taux de réussite... Non, mais tu vas voir. Le taux de réussite, du foot français en club, en finale de Coupe d'Europe, c'est le plus faible. Il est à 15%. Par rapport au nombre de finales disputées. On a disputé 13 finales. J'inclus évidemment celle de l'Olympique de Marseille. J'ai pas fait que du recyclage, monsieur. Je me suis mis un peu up to date avec Marseille qui a disputé sa finale d'Europa League face à l'Atlético. Donc on est à 13 finales avec 2 succès. C'est le plus faible. On est champion du monde. Ce serait bien que, enfin, qu'il y ait une espèce de prise de conscience. Et quand je parle de prise de conscience, alors, on va être très clair, hein, la Champions League, il y a que le Paris Saint-Germain qui peut réellement prétendre, dans les années qui viennent, enfin, le plus tôt possible, ce serait une bonne idée, rapporter la Coupe aux grandes oreilles en France, qui n'est arrivée qu'une seule fois en 93. Mais l'Europa League n'allait pas me dire qu'elle n'est pas dans les cordes du foot français.
Bah, regardons,
on a l'Olympique de Marseille qui l'a fait, mais il l'a fait aussi, je pense, pourquoi? Parce qu'il est enfin arrivé avec ce club français, l'Olympique Lyonnais aussi, mais ils se prennent les pieds tragiquement dans le tapis contre Moscou, alors qu'ils avaient gagné au match aller. Mais on a une prise de conscience, que cette prise de conscience soit suivie des faits, et que notre football de club arrive à rejoindre le niveau de notre football de sélection, même si on a... bien sûr qu'on fait un complexe. On a fait un complexe qui nous a pesé pendant des dizaines d'années. Et puis dans ce complexe, on a même eu le luxe de snober l'Europa League. Ah oui, non, mais ça nous prend des forces. Eh oui, puis les matchs le jeudi, c'est trop compliqué après pour les matchs de championnat. Non, mais attends. Si t'en as gagné 15 ou 16 comme les Espagnols ou les Italiens ou les Anglais, ok, et encore. Quand tu gagnes, tu snobes personne, tu snobes aucun trophée. Nous, en France, on le faisait alors qu'on n'en a gagné aucune. On a eu des finalistes, malheureux, mais on n'en a gagné aucune. Ce serait bien donc que on est champion du monde, c'est fantastique, il y a une euphorie extraordinaire, mais que les joueurs français qui sont dans un pays champion du monde, eh ben eux aussi, ils se disent, mais on peut aller chercher ces trophées. La Champions, c'est une chose, mais l'Europa League, c'est une culture de la gagne, et que tu ne trouves plus d'excuses, les matchs le jeudi, et que tu te dises, mais c'est parfaitement dans nos cordes, et qu'on aille au bout, et qu'on essaye. Je dis pas qu'il faille la gagner chaque saison, c'est pas possible. Mais qu'on se mette au diapason de notre football de sélection, même si on a des joueurs qui jouent à l'étranger, mais c'est une question de culture de la gagne, comme l'a dit Samy, de mentalité.
Ok, voilà. Merci pour le recyclage. Plutôt, d'accord. Donc si je viens l'année prochaine dans l'after l'été, tu vas...
non, parce que l'année prochaine on sera pas champion du monde du Super d'Europe.
D'accord. Samy.
Ouais, après c'est vrai. Je pense que il y a certains clubs qui ont délaissé l'UEFA. Et c'est on va dire c'est du grand n'importe quoi.
Mais comment t'arrives à expliquer?
Parce que tu fais toute une saison pour te qualifier justement. Pour faire pour l'UEFA ou la Champions League.
Et après tu fais du tourisme.
Une fois que t'es qualifié pour l'UEFA, tu te demandes si tu la joues à fond.
Mais tu sais
mais
que
pourquoi alors au final vous tout le monde veut se qualifier
mais
pour
mais
la
Champions League. J'ai l'impression que c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Quand
ça
même.
A un peu changé.
Non, mais
ça a un peu
pourquoi
changé.
Parce que Marseille aussi par son comportement a démontré. Oui. Que c'était accessible.
Ouais, mais il n'y a pas que Marseille. J'ai la sensation que depuis deux ans, ça a tourné.
Un petit peu Lyon. C'est vrai qu'Ola, ça a commencé à dire, non, c'est bien quand même de la gagner.
De toute façon, Ola, quand il commence une compétition, il veut toujours la gagner, quoi qu'il en soit.
Oui, mais tu vois, il l'a dit, il a mieux exprimé. Mais il y a quand même un truc qui est dingue. Je me répète, mais on a autant de Coupes d'Europe que la Suède, qui n'est pas un pays de foot.
Mais au niveau des stats. Par rapport aux finales perdues, on doit être dans les...
On est à 15%. Enfin, alors, il faudrait que je remette la stat à jour avec la finale perdue de l'Olympique de Marseille. Mais c'est le pire pourcentage. On a joué 13 finales. Ah ouais. Tu prends Stade de Reims, Saint-Etienne, Bastia, Marseille,
ben oui,
Bordeaux.
C'est mis un peu
Paris.
Raison. Alors évidemment, ça change, tout change entre un finaliste
c'est
et un vainqueur.
De la lose.
On le sait bien. Mais ça veut quand même dire qu'on va souvent loin dans ce genre de compétition.
Non, on a un ratio de finales disputées. Si on considère tous, parce que on se gargarise tous chez nous, pas que dans l'after, hein, mais en France, mais dans le foot, à dire on compte les Français dans les 5 grands championnats. Si dans les 5 grands championnats, moi, tu me mets un pays qui, depuis 1955, on est en 2018, n'a disputé que 13 finales de Coupe d'Europe pour n'en gagner que 2, je suis désolé, mais moi, je sors de ce 5 majeur. Je suis dans le 5 majeur au niveau des droits télé, mais alors ça, il n'y a pas de discussion possible là-dessus, mais on s'en fout, quelque part, par rapport au sujet du sportif. Le Portugal, la Belgique, l'Écosse, on en gagnait plus que nous. Je dis pas que c'est anormal. Je dis qu'ils ont une autre culture et que cette culture leur a servi. On a vu des clubs d'Europa League arriver, qui n'étaient pas issus de championnats plus fortunés que le nôtre, donc ils pouvaient se payer des armadas de joueurs de qualité et gagner l'Europa League. Séville. Mais dites pas que Séville, si elle était dans le championnat de France, cette équipe serait dans le top 3 chaque année. Séville, on a gagné 3 en 3 saisons. 5 sur les 10 dernières. 3 en 3 saisons successivement. C'est-à-dire que plus que tout le football français réuni depuis 55.
Je pense que Séville fait au moins top 5 tous les ans, hein, chez nous.
Non, mais top 5. Mais pas champion.
On l'aura bien compris. En tout cas, pour toi, on se gargarise. Tu parlais de Yuri.
Il serait temps que vous alliez vous coucher. Non, c'est drôle.
Tout le monde ne connaît pas là.
Yuri Gargarise. En fait, tout le monde connaît évidemment. Bah, j'ai tous ces disques.
Blague de Jean-Christophe.
Mais je suis levé depuis très tôt moi ce matin. J'ai fait les grands
matchs. Non mais tu veux qu'on sorte les violons aussi?
Ben oui, chialer un petit peu.
T'as beaucoup bossé. Nous, on est arrivé comme ça la fleur au fusil. En recyclant des amis. Bravo, mauvaise langue en plus.
Le lever 14h,
ça
vise.
Ça va pas, non. J'ai un enfant de 2 ans. Il est réveillé. Il faut lui changer ses couches, il faut lui faire prendre son bain. Je suis réveillé, moi aussi, attention.
Pardonne-moi, c'est bon. Frédéric nous appelle, supporter de l'Olympique de Marseille. Je pense que je vais savoir où tu veux en venir. Salut Frédéric.
Salut Fred.
Oui, bonjour,
salut.
Bonjour à toute l'équipe.
Tu voulais répondre à François?
Oui, tout à fait. Parce que je suis d'accord avec lui sans l'être totalement.
Allons-y.
Alors, sur ce qui dit, c'est la vérité. Bon, par rapport quand on voit l'état d'équipe de France, bon, c'est normal, parce que quand on voit quand même l'équipe de France, il y a 98% de l'effectif, du moins des titulaires qui étaient sur le terrain, je ne joue pas en tant que championnat de France, donc il n'y avait plus grand championnat, donc ça peut se comprendre. Après, pour ce qui est des Coupes d'Europe, c'était vrai il y a quelques années en arrière. Moi, je pense il faudrait faire un peu de compte sur les 7-8 dernières années, voir les résultats des clubs français. Parce que sur les 7 dernières années, Monaco quand même est en dernière carrière du champion, l'OM aussi, Lyon est en demi-finale, Paris est toujours en quart de finale. Donc, c'est tout à fait vrai. Et je pense que que ça, c'est en train de changer. Moi, je suis persuadé, c'est que bon, il y a eu une prise de conscience, clairement, et je pense, moi, que il y a quelques années, c'était pas normal, c'est vrai, parce qu'il n'y avait pas d'écart. Il n'y a pas les mêmes effectifs, en fin de compte. Quand vous avez un club anglais, un club italien qui ont 30-50 joueurs, pas de même niveau, mais disons qu'il y a au moins 25 joueurs de qualité égale, ce qui n'est pas le cas dans le championnat de France. Et je pense que ça faussait quand même un petit peu le résultat, quoi.
Fred, moi, il y a deux choses dans ce que tu viens de dire. Je partage ça avec Jean-Christophe et Samy aussi. C'est que, oui, c'est mieux. C'est mieux. Oui, demi-finale de Lyon, finale de Marseille, demi-finale de Monaco en C1, alors qu'on s'y attend pas. Oui. Mais on n'a pas gagné, les gars.
C'est
on n'a rien gagné. On ne peut pas continuer, Frédéric, à se gargariser en disant « Ah, mais on a fait demi-finale hein, quand même, les gars, c'est bien. » Hein. Mais sinon, mais Fred, pardon, je caricature exprès, Fred, mais si on fait des demi-finales de Coupe d'Europe dans les 10 prochaines années, sans accéder en finale, qu'est-ce qu'on en a à faire?
Ce titre de champion du monde doit nous permettre ça.
Mais il doit, dans la prise de conscience...
Je ne pense pas que ce soit qu'une seule prise de conscience. Parce que regarde le salaire des certains joueurs d'Atletico. C'est un type comme Costa ou n'importe quoi, mais il est intouchable pour l'Olympique de Marseille. Intouchable. Si, quand même.
Mais c'est il y a aussi que... Non, mais il a raison.
Je parle d'Europa League. Moi, je parle vraiment d'Europa League. C'est autre chose.
Après, ils sont tombés sur, Marseille est tombé sur vraiment le plus gros os, de l'Europe en tombant sur l'Atlético en finale. On sait très bien que l'Atlético, c'est quand même un représentant de la Ligue des Champions. On va pas se voiler la face.
Bien sûr. Mais après, les autres équipes, comme les équipes allemandes qu'on a rencontrées quand même, qui avaient terminé quatrième championnat d'Allemagne, on a pété les yeux, on les a battus.
Non, après, il y a Lyon qui se manque contre Moscou, il y a les clubs. Après, je pense que les clubs français, comme on disait tout à l'heure, n'avaient pas cette faim, cette envie d'aller poursuivre plus loin. Mais maintenant, faut qu'ils prennent conscience que ramener un titre européen en France, c'est-à-dire que ce soit Marseille, que ce soit Paris, que ce soit Saint-Étienne, que ce soit n'importe quel club français qui ramène, ne serait-ce que l'UEFA, l'Europa League en France, c'est quand même un trophée déjà pour le club, déjà premièrement super, mais ça c'est quand même ramené en France. Ça veut dire que ce champion-là est français.
Exactement. Qu'il est français. Exactement. Et tu sais que Diego Costa, si à un moment donné, au bout de X années, les clubs français ramènent, ou un club français ramène, ou du deux Coupes d'Europe, juste l'exemple de Séville. Mais à un moment donné, le joueur,
le regard
Diego Costa, mais bien sûr que le regard change, parce qu'il y a la caillasse quand on parle de Neymar. C'est l'argent. Neymar, il vient pas parce que le Paris Saint-Germain l'éblouit par son histoire en Coupe d'Europe. Quand il arrive dans la salle de trophée du Paris Saint-Germain, il voit une Coupe d'Europe qui a disparu.
Regardez, qu'est-ce qui fait que le jeune défenseur qui est le croate qui a signé l'Olympique de Marseille, il a dit lui-même, j'ai le souvenir des matchs que j'ai fait avec les Tigres au Stade Vélodrome, j'ai vu l'ambiance de folie, j'ai vu une envie de gagner. C'est ça qui l'a fait venir. C'est pas autre chose. Hein.
C'est ça
qui a fait la différence avec certains clubs. Hein. Ils auraient pu aller à Séville. Hein. Séville s'alignait sur le même prix. Hein.
Exactement. Et on en avait parlé dans l'after d'ailleurs. Merci beaucoup Frédéric pour ton avis.
Merci Fred.
Je t'en remercie, bonne soirée.
À bientôt. Rappelle-nous quand tu veux au 32-16. Alors avant de marquer une courte pause, vous êtes nombreux sur Twitter à me demander les résultats. Nombreux à me demander le résultat des féminines lors de la Coupe du Monde à 7 de rugby. Alors juste une précision, je suis pas le fil AFP, ok. Mais je vais quand même vous donner l'information parce que vous êtes nombreux.
Tu m'écoutes avant l'émission, on va être deux poney trois tendus et maintenant on nous demande les résultats de l'équipe de France de rugby.
Que les Françaises sont en finale de cette Coupe du Monde à 7 de rugby. Elles ont battu l'Australie après avoir été menée 12-0. L'équipe de France a remporté sa demi-finale face aux championnes olympiques australiennes 19-12.
Moi j'ai découvert cette discipline l'année dernière avec les Jeux Olympiques et j'ai été soufflé aussi bien par les filles que par les garçons. Ouais. C'est extraordinaire à voir. C'est quand même le seul sport co où tu t'arrêtes pas, il n'y a pas de temps mort.
Ils sont combien, 7 par équipe sur un grand terrain?
C'est du rugby à 7 en fait.
Non mais
c'est 15 minutes la mi-temps, t'imagines?
Non mais c'est
15
trop.
Minutes par la première par période.
Et le rugby à 15, tiens-toi bien, Samy. Ils sont 15. Incroyable.
Non mais 7, je suis en que c'est 7 sur un...
Samy, vas-y, mets le truc à la 43, là, on arrête.
Et vous savez quoi? Le rugby à 13. Ils sont 13. Et je le disais, le top 14, incroyable.
J'espère que Gilbert Brébois nous écoute. Gilbert, il faut que tu fasses quelque chose. Jean-Christophe Drouet n'est pas du tout un personnage sympathique.
Bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que si vous voulez me demander les résultats, c'est la dernière fois, je suis pas votre fil AFP. A tout de suite sur RMC, on va parler de Thierry Henry.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
On s'amuse, on parle foot, c'est l'after jusqu'à 23h l'été, au mois de juillet, 21h, 23h. Retenez bien cet horaire. Toujours avec François Manardo, toujours avec Samy Traoré. On s'amuse bien?
Oui,
ça
oui,
se passe
oui,
bien beaucoup. Cette émission.
Très, très bien. Ouais,
on parle de mercato.
On rigole.
Ben oui, parfois quelques blagues, toujours bien senti évidemment.
Ah ben les tiennes, oui.
Vous nous connaissez et vous me connaissez évidemment. Dans quelques instants, à partir de 22h, nous allons parler du mercato de l'Olympique Lyonnais. Mercato plutôt calme pour l'instant. Êtes-vous inquiet, supporter de l'OL? On vous attend évidemment. Au 32-16, mais tout de suite ce dossier. Que va faire Thierry Henry au mois d'août? En début de semaine, il annonçait sa décision de quitter son rôle de consultant de la chaîne britannique Sky Sport afin de se consacrer à son ambition de long terme, devenir un entraîneur de foot. Je cite Thierry Henry. « C'est avec tristesse que j'ai décidé de quitter Sky Sport pour passer plus de temps sur le terrain et me concentrer sur mon aventure. Une aventure en tant qu'adjoint de la sélection belge, pensait-on, mais selon plusieurs médias anglais, Thierry Henry pourrait quitter son poste pour aller entraîner en deuxième division anglaise. Aston Villa rêverait de faire venir l'ancien gunner. Après avoir connu des soucis financiers, le club de Birmingham vient d'être repris par de nouveaux propriétaires égyptiens qui ont promis de gros investissements. Thierry Henry doit-il se lancer dès maintenant dans le grand bain? C'est la question que l'on vous a posée sur notre compte Twitter de l'After par l'intermédiaire de notre community manager Laurent Fala. Thierry Henry à Aston Villa, bonne ou mauvaise idée? Évidemment, on se focalise là sur Aston Villa. Et pour l'instant, pour vous, près de 5000 votants tout de même, 53%, plutôt une bonne idée pour Thierry Henry d'aller à Aston Villa. Est-ce que c'est le moment de se lancer dans le grand bain? Oui ou non, messieurs? François?
Oui. Après, Aston Villa, je sais pas. Je crois pas, mais lui, évidemment, dans la mesure où il prend cette décision de quitter son poste de consultant chez Sky parce que ça le démange et parce qu'il travaille, enfin, à travers l'expérience avec la Belgique et cette phase finale, il a regoûté à quelque chose qu'il a quitté depuis 2010. Et oui, oui, c'est le moment. Maintenant, je me fais aucun souci, je n'ai aucun doute sur le fait que les conditions qu'il imposera par rapport à la direction d'un club, que ce soit Aston Villa ou un autre, Jean-Christophe, sur le recrutement, enfin l'organigramme d'abord, l'institution, comment elle est gérée, comment elle est dirigée, pilotée, ensuite le recrutement, ensuite avec quelle personne il veut venir, là-dessus, pour connaître un petit peu le zozo, il va y avoir des choses absolument pas négociables entre le club et lui. Et tant mieux pour Thierry Henry, parce que quand il va s'asseoir autour d'une table pour négocier son avenir en tant qu'entraîneur, il y aura des choses certainement, il connaît la chanson, hein, où il lâchera un peu de lest, mais je peux vous dire que il a une telle expérience sur qui est le président et comment il fonctionne, le recrutement et avec qui il va venir bosser, là-dessus, ce sera lui qui aura le dernier mot. Et si ça ne mord pas tout de suite à l'hameçon, pas de problème.
Il a le temps.
Il est à l'abri, il a le temps.
Exactement. Mais Aston Villa, une bonne ou une mauvaise idée?
Après, quand tu veux te lancer, il n'y a pas de petite équipe, que ce soit une Aston Villa, une des deux, ou une équipe de... Une qui me dit une première.
Ah oui, mais il a un statut.
Non, mais il a raison.
Ça veut dire quoi, un statut?
Ça veut dire que il a pris le Real.
Non, il a fait ses classes tranquillement. Il a appris, il a passé ses diplômes, et puis voilà.
Ce sera pas une question de prestige.
Je pense qu'une fois que l'opportunité est là, voilà, lance-toi, comme on disait, construis ton staff. Et après, tu vas charbonner avec ton staff pour faire prendre le meilleur de ton équipe.
Ça va pas être une question de prestige. Si demain, c'est un club de première ligue, mais qui est mal piloté, qui est mal dirigé, il préférera prendre un club de championship avec une structure et après, un cadre de travail stable.
Faut pas oublier qu'au niveau matériel et au niveau financier, un club de championship, ça équivaut à un club de ligue 1.
À peu près. Surtout avec de nouveaux investisseurs qui ont envie, je le disais, de faire de gros investissements. Non, mais je dis pas que le pari est, mais c'est vrai que quand on parle de Thierry Henry, on pense pas tout de suite
les investissements, les amis. C'est pas que les investissements.
Il va faire ce qu'il aime. Entraîner des joueurs. Quel que soit le club, quelle que soit la division, il va entraîner des joueurs.
Oui, mais on sait à quel point
c'est un jeune entraîneur. C'est un jeune entraîneur aussi. Il a besoin de se former.
Ouais.
Quoi de mieux que de te former avec une division 2? Il a le temps d'aller chercher du haut niveau. C'est un jeune entraîneur. Il a quand même aussi à lui se prouver des choses et à apprendre des choses. C'est un jeune entraîneur. Il est là pour apprendre. Alors, autant apprendre avec une division 2.
Bah, il y a un supporter d'Arsenal qui nous appelle. C'est Romain au 32-16. Ça va, Romain?
Bonsoir.
Romain.
Toi, tu as une autre option pour lui, tout simplement, qu'il reste en Belgique.
Ben, exactement. À l'heure actuelle, il est dans un vrai confort. C'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il est effectivement entraîneur de l'attaque, mais il est quand même dans l'équipe et il voit quand même ce qui se passe. Moi, ce que j'ai peur surtout, c'est qu'il se crame les ailes très rapidement, quoi. Il a que 2 ans au haut niveau. Il peut encore apprendre de ce haut niveau, qui sera quand même un apport hyper important pour un jeune entraîneur. Autant rester encore 2 ans jusqu'à l'Euro, et puis après, il verra.
Ça fait beaucoup 4 ans, quand même. Hein.
En sélection, ça fait beaucoup.
En sélection, hein. Parce que tu es
en sélection.
Un sélectionneur n'est pas un coach. Hein.
Mais ça importe peu, il va quand même continuer à apprendre au haut niveau.
Je pense que...
Imaginons, il arrive à Aston Villa, qui a la chance d'avoir un apport financier important. On sait que ces clubs de championship sont, pour 100% des clubs, plus riches que le dixième de Ligue 1.
Surtout qu'Aston Villa jouera la montée et l'a joué et l'a manqué de peu.
C'est ça. Mais imaginons qu'il se loupe. Il aura encore derrière une chance avec un autre club, et si jamais il se loupe encore, c'est terminé.
Ah oui, dans ces cas-là, tu fais rien dans la Ligue.
Mais au bout d'un moment, faut prendre des risques quand même, non?
C'est bien le débat. Il est trop tôt pour prendre une équipe tout seul. C'est intéressant.
Excuse-moi, Steven Gerrard, il a arrêté sa carrière. Il est parti directement aux Rangers. C'était trop tôt pour Steven Gerrard d'aller aux Rangers aussi.
Et il a fait quoi?
Tu veux le tuer avant qu'il commence.
Il a perdu son premier match de préparation.
Vous êtes en train de présenter la chose comme quoi c'est déjà arrivé. C'est pas encore arrivé. Il a encore rien fait.
On ne présente pas la chose comme ça. Je te dis juste que Steven Gerrard est passé de fin de carrière à entraîneur principal aux Rangers. C'est juste là, c'est juste le paramètre que je te mets en considération. C'est pareil.
Je suis d'accord.
Ben c'est juste ça.
Il y en a tellement d'entraîneurs qui, au bout de 2 ans de jeu, après avoir entraîné des petites équipes ou des jeunes, se sont cramés les ailes. Tout ce que je veux dire, c'est le jeu
de la vie. C'est comme ça. Il faut tenter sa chance. Il va apprendre. Et justement, peut-être que en se cramant les ailes, ça lui va lui servir pour son futur. Une carrière d'entraîneur, ça se construit sur des échecs aussi. Hein.
Il repart d'une page blanche, hein, Thierry Henry. Oui, il a le droit de se casser la gueule.
À mon avis, hein, quand tu as réussi avant, tu peux te permettre de te planter une fois après. Mais quand tu n'as encore rien fait, en général,
je suis pas d'accord.
C'est trop tôt.
Est-ce que vous avez la sensation? Non, mais c'est l'avis de Romain, et c'est intéressant de voir à quel point, évidemment, parce qu'on se pose aussi toutes ces questions forcément sur Thierry Henry. Est-ce qu'il doit se lancer dès maintenant dans le grand bain?
D'abord.
Par exemple, quand on voit Patrick Vieira.
Oui,
Patrick Vieira qui est parti entraîner aux États-Unis.
Moi, je suis niçois, et je flippe les gars de voir arriver. Hein. Soyons clairs. Hein.
Comment?
Moi, je suis niçois. Hein. et de le voir arriver.
Mais sur la base de quoi, t'as peur?
Pourquoi?
Ça marche pas. Parce qu'il y a rien derrière.
C'est-à-dire rien derrière?
Attendez, les gars, il y a un championnat américain où il a fait pas grand chose d'exceptionnel, quoi.
Et quand ils ont ramené le Favre, tu pensais la même chose quand Favre il arrivait, non? À peu près.
Non, mais attendez, c'est quand même un niveau.
Non, pour savoir s'il connaît un peu le football.
Mais Favre, il avait une carrière avant lui, on peut comprendre.
Mais s'il vous plaît, mais attendez, vous êtes en train de me prendre pour un crétin, là, c'est pas le cas, et je connais le football.
Ben, c'est pour
même
ça que je pose la question.
Il est arrivé, on savait déjà qu'il avait quand même des épaules pour pouvoir tenir une équipe de Ligue 1 tout seul.
Bah, d'accord. Bon résultat en MLS.
Maintenant, tu sais jamais ce qui va se passer dans le football. Comme t'es un supporter niçois, je vais t'expliquer. Tu te souviens de l'année où moi je suis arrivé à Nice, et Nice est venu de monter en Ligue 1. C'était Garnot l'entraîneur. On n'avait aucune certitude.
C'est clair.
Et on a fini combien? On a fini peut-être 8e, et on est resté sur les 22 ou 23 premières journées premiers au championnat. T'imagines? Avec une équipe de bras cassés.
Mais Guernot, avant, il avait quand même du bagage.
Ouais, ouais, parce c'est pour te dire que tu sais jamais ce qui va se passer. Donne-lui de la confiance, donne-lui de la force, ça verra, peut-être que ça ira mieux. Tu pars, on dirait que c'est, tu pars avec, tu pars défaitiste avec lui, on dirait.
Mais il faut bien qu'à un moment donné, tu te lances.
Romain, termine, tu peux répondre à Samy et à François.
Alors, sur l'exemple niçois, les gars, et je suis un vrai niçois, d'accord? Je vais te le prouver.
Non, c'est pas ça, je te crois, bien sûr.
Je sais pas que vous étiez encore en Ligue 1. Et vous aviez tellement de cœur au ventre que vous nous avez fait un championnat de fou. Et vous nous avez rendu totalement malade cette saison-là. Maintenant, pour revenir à Thierry Henry, je suis pas en train de dire qu'il faut pas, c'est pas le moment pour moi. C'est tout.
Mais voilà.
Peut-être que dans 2 ans, j'aurais changé d'avis.
Mais c'est le moment. Alors pourquoi?
Exactement.
Pourquoi
merci beaucoup, Romain, pour ton avis.
On garde pas. Non, mais pourquoi c'est le moment?
Il nous en veut pas. On l'aime bien. Appelle-nous quand tu veux au 32-16.
Non, on nous en veut pas, les gars.
Non, c'est pour, on le garde.
On débat et on parle de foot, donc tout va bien. On t'embrasse, Romain.
Ciao, merci
Romain.
Mais pareil.
On t'embrasse,
ciao,
Romain.
Et belle saison ciao, avec Patrick.
Oui, évidemment, et belle saison avec Patrick. Mais il faut qu'évidemment, à un moment ou un autre, tu te lances. C'est un sujet qui n'intéresse que Thierry Henry de savoir si maintenant, j'y vais. Ben, et il aura évidemment la possibilité de réussir comme de se casser la gueule. Mais quand on connaît le l'homme, il va pas s'arrêter sur un échec si jamais il connaît
cette décision,
échec.
C'est qu'il est prêt.
Eh ben, en tout cas, ça fait débat et c'est parfait. Et j'espère que l'autre débat, on parlera de lui. On va aussi faire débat. Appelez-nous, supporters lyonnais. Est-ce que le mercato est trop calme? Sachez que tout à l'heure, j'ai donné le résultat de des filles de rugby à 7, tout ça. Donc, on me demande plein de choses. Là, sur Twitter, il y a notamment quelqu'un. Faites très attention. Je vous ai dit, je suis pas votre fille AFP. Et quelqu'un m'a dit, est-ce que t'aurais les résultats de l'Euro Million d'hier soir? Alors ça j'ai, donc pas. C'était le 2, le 15, le 40, le 43, le 46 et les étoiles, le 3 et le 6. Voilà, j'espère que t'as retenu, sinon tu vas sur le site comme tout le monde. Allez, à tout de suite sur RMC pour
le dire qu'elle finira samedi après l'émission.
RMC, le super football show, l'After Foot.